Bienvenue à l'Université de l'ingénierie. Nous sommes à la fois une université d'entreprise du groupe SNCF, un centre de formation et un laboratoire d'innovation pédagogique. Nous formons chaque année plus de 3500 stagiaires et organisons un cycle de conférences annuelles ouvert à tous les professionnels et passionnés du monde ferroviaire. Cette année, le cycle est dédié au ferroviaire du futur. Au programme, plusieurs tables rondes pour comprendre, se projeter, agir et saisir les nouvelles opportunités. Vous vous apprêtez à découvrir les échanges de la conférence numéro 2, intitulée « Partenariat, clé de la réussite de la mobilité au XXIe siècle ». Autour de Vincent Hédin, journaliste et animateur de nos tables rondes, nous avons le plaisir de retrouver Antoine Meunier, journaliste scientifique, spécialiste de l'actualité spatiale, Hélène Vasseur, directrice territoriale Normandie SNCF Réseau, Vincent Delcourt, directeur performance, stratégie et intelligence technologique, groupe SNCF. Bonne écoute.
Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous aussi nombreux. Il est 17h08. Avant d'éventer toute plaisanterie stupide, je tiens à préciser que nous étions à l'heure. On attendait juste que vous vous connectiez en masse, puisque vous êtes extrêmement nombreux à vous être inscrits pour cette conférence sur le partenariat comme clé de la réussite de la mobilité au XXIe siècle. C'est la très bonne surprise du jour. Nous sommes actuellement à Saint-Denis, au siège de l'UDI. Je me tourne vers le directeur général de l'UDI. Bonjour, Pierre Gibbe. On est chez vous.
Peut-être bonjour Vincent.
Pour ceux qui ne connaissent pas, on pourrait peut-être rappeler ce qu'est l'UDI.
Oui, tout à fait. Alors l'UDI, donc, on est une université d'entreprise rattachée à SNCF Réseau. Et chaque année, on accompagne la montée en compétences de cadres, d'ingénieurs, de techniciens sur le domaine ferroviaire. Alors traditionnellement, on était très centré sur le groupe SNCF, sur l'interne et plus spécifiquement sur SNCF Réseau. Mais depuis cette année, on entame une démarche d'ouverture aux externes, vraiment pour accompagner la montée en compétences de la filière ferroviaire au sens large. Donc ça veut dire que nos formations maintenant s'adressent à des entreprises privées du secteur ferroviaire, à des ingénieries, à des entreprises de travaux, etc. Et pourquoi on fait ça? Pourquoi on ouvre nos formations? Eh bien, c'est parce qu'il y a quelque chose qui s'appelle l'externalisation chez SNCF Réseau et que cette externalisation, c'est confier des tâches à des entreprises du privé pour régénérer le réseau, pour accompagner toutes les transformations qu'il y a à faire. Et donc, ça nécessite une montée en compétences globale de la filière ferroviaire. Donc voilà, on s'est positionné comme un acteur qui veut accompagner cette montée en compétences. Et ça rejoint un peu le thème du partenariat qu'on va aborder aujourd'hui et dont on va parler aujourd'hui, parce qu'on ne fait pas les choses seuls, on ne sait pas tout faire tout seul, donc on a besoin de partenaires pour nous aider dans cette montée en compétences et accompagner la filière.
Juste un petit mot avant de parler du partenariat. Je le disais, il y a plus de 350 personnes qui sont inscrites, dont plus de 150 jeunes, principalement en école d'ingénieurs. Ça doit quand même vous enthousiasmer, l'idée qu'aujourd'hui les jeunes se mobilisent pour une conférence comme
alors,
ça.
Alors complètement, je suis ravi et ça montre l'attractivité un petit peu du domaine ferroviaire. Attractivité qui n'était pas évidente il y a quelques années, mais là, je pense qu'avec les défis écologiques, avec les défis de technologiques aussi, le train est quand même en train d'évoluer très très rapidement. Le réseau, c'est pareil, il est de plus en plus connecté. Il y a de la data, il y a des objets connectés. Donc, il y a vraiment plein de défis technologiques et je suis ravi que les jeunes s'intéressent à ce milieu. Et j'espère que ça suscitera des vocations et que ça favorisera l'engagement des jeunes sur le domaine ferroviaire, qui est vraiment un super secteur. Franchement, voilà, moi, je suis rentré dedans il y a 20 ans et je ne regrette absolument pas.
Alors un petit mot sur le sujet du jour. Donc cette conférence sur le partenariat, elle s'inscrit dans un cycle de 5 conférences que vous avez voulu sur le train du futur. Il y a une première conférence qui s'est tenue ici même le 30 juin dernier. On devait à l'époque mettre des masques dès qu'on ne parlait pas parce que les conditions sanitaires étaient plus compliquées. Et on a vu au fond qu'après avoir été pendant un an et demi, il y a un certain nombre de signaux faibles qui laissent à croire que la mobilité de l'avenir, c'est le ferroviaire, parce que les gens ont développé le télétravail, vont vivre plus loin des métropoles, mais qu'heureusement, il y a des gares un peu partout. Le Flygskam, donc la honte de voler pour ceux qui ne parlent pas suédois, se répand. Et effectivement, le train a l'avantage d'être cette mobilité décarbonée qui a tout devant elle, à condition de réussir quelques challenges, à commencer par donc, les partenariats, parce que dans un monde compliqué, on ne peut pas faire tout seul. C'est pour ça que vous avez voulu le mettre en avant.
Alors effectivement, on accompagne la montée en compétences et la montée en compétences, ce n'est pas que des formations, c'est aussi des cycles d'ouverture, c'est aussi s'intéresser à d'autres sujets. Et on a voulu s'intéresser au ferroviaire du futur. Donc qu'est-ce que sera le train dans 5, dans 10, dans 20, dans 30 ans? Et donc, on aborde ce sujet autour d'une conférence, de 5 conférences qu'on relie sur le thème le ferroviaire du futur. Donc, la première conférence explorait les modalités post-Covid. Là, on va être sur le sujet des partenariats et on aura des conférences d'après qui seront un peu plus techno sur le réseau, ses évolutions, etc. Et c'est vraiment pour donner toute l'amplitude, toute la latitude de ce que peut être le domaine ferroviaire et aussi d'intéresser les gens à ces aspects.
Un petit mot pour terminer, je crois qu'à titre personnel, la notion partenariale, c'est des choses que vous avez abordées dans votre carrière avant d'être à la tête de l'UDI. Donc, un petit teaser sur pourquoi est-ce que cette conférence vous intéressait particulièrement.
Effectivement, alors je parlais de l'externalisation. Ça peut être soit de la relation client-fournisseur, mais quand on est dans les difficultés, on se rend compte que c'est vraiment la relation partenariale qui permet de surmonter les difficultés. Quand un chantier se passe mal, si on n'a pas un peu de partenariat avec les entreprises, c'est quand même très difficile d'aller jusqu'au bout. À un moment de ma carrière, j'ai été dans des groupements publics privés, enfin des groupements SNCF avec des entreprises privées pour gérer des chantiers. À une époque où RFF était encore là, mettait en concurrence les activités de la SNCF. Donc ça m'a fait découvrir tout ce monde du partenariat et du secteur privé que je ne connaissais pas. Et c'était vraiment une très très belle expérience.
On espère que la conférence va être aussi belle. Merci beaucoup Pierre. Peut-être à tout à l'heure, mais en tout cas, je vais vous laisser aller écouter dans le public.
Merci beaucoup et je remercie chaleureusement aussi nos 3 intervenants et puis vous, Vincent, qui a animé cette conférence.
Avec plaisir.
Mais je vous souhaite une bonne conférence. Merci.
Alors, un petit mot en ce qui concerne l'interactivité de cette conférence. On va faire une conférence en 2 temps, permettant d'abord à chacun des 3 intervenants que je vous présenterai au fur et à mesure d'explorer un peu son thème de compétences. Et ensuite, on aura la discussion la plus nourrie possible avec vous. Ça avait été le cas le 30 juin. J'espère que ce sera à nouveau le cas aujourd'hui. N'hésitez pas à nous envoyer donc un maximum de questions sur l'onglet Teams, vous avez l'habitude. Et je veux être optimiste, je veux penser qu'on va être à nouveau enseveli de questions. Et donc, pour faire remonter les plus pertinentes, n'hésitez pas, vous connaissez un peu ce système de push, à mettre des pouces pour que celles qui sont le plus attendues, qui suscitent le plus d'enthousiasme, je les pose en premier. Et puis, évidemment, j'essaierai de les relier par paquet et thème d'intérêt. Donc voilà, je suis entouré d'Antoine Meunier, Hélène Vasseur et Vincent Delcourt, que je vais vous présenter dans quelques instants. On va tout de suite commencer avec vous. Antoine, on va commencer par aller dans l'espace. Donc, pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes un journaliste scientifique. Ça va avoir son importance.
C'est bien ça.
Donc il n'y aura pas d'erreur sur le fond. Vous êtes un spécialiste du monde spatial. Vous êtes le créateur, le fondateur de lachroniquespatiale.com. Pour ceux qui ne connaissent pas, dépêchez-vous d'aller dessus jusqu'à après-demain, parce que pour l'instant c'est gratuit, mais après évidemment vous passerez au payant. Ce sont des choses qui arrivent. Pierre disait à l'instant, quand il y avait des problèmes de partenariat sur un chantier, ça pouvait avoir une fin tragique. Évidemment, quand on envoie un homme dans l'espace, le risque il est gigantesque. Et donc en 15 minutes, vous allez nous brosser un peu le portrait du partenariat entre la NASA, que tout le monde connaît, et SpaceX. On a choisi délibérément de commencer cette conférence en partant le plus loin possible pour voir que malgré tout, même aussi loin, en fait, il y a des choses qui nous relient, parce que quand on fait un partenariat, il y a forcément des enjeux institutionnels, industriels, stratégiques qui se recoupent partout. Donc on vous écoute.
Merci. Bonjour à tous. Alors, la grande question, donc, SpaceX est-elle le partenariat privilégié de la NASA ? Déjà, je crois qu'il faut replacer les choses dans le contexte, c'est très important. La conquête de l'espace, on va prendre notamment celle de la Lune, c'est une entreprise qui est à la fois publique et privée, surtout dans le cadre de la guerre froide. Essayons de nous replacer un instant dans les années 60. Vous avez une institution, la NASA, qui va mettre en place un projet, aller sur la Lune. Et puis, vous avez l'industrie qui va concevoir les moyens afin de parvenir à cet objectif qui est quand même extrêmement ambitieux. Alors, on va faire intervenir tout un tas de sociétés. Déjà, on va quand même se poser la question, est-ce que c'est possible d'envoyer un homme dans l'espace ? On commence avec le programme Mercury, on est en 61. Côté russe, ce sera Vostok, mais je ne traiterai pas cette partie-là. On se rend compte avec Mercury que c'est possible donc, d'envoyer un homme dans l'espace. Alors après, on va concevoir un vaisseau, le vaisseau Gemini, qui va nous permettre de répéter les procédures qui sont nécessaires pour aller en direction de la Lune. Dans les deux cas, le partenaire industriel de la NASA, ça sera la firme McDonnell Aircraft. Donc une fois ces deux étapes franchies, eh bien, on envoie les missions en direction de la Lune. On continue par répéter certaines procédures. On valide notamment le vaisseau Apollo autour de la Terre. Et puis ensuite, eh bien, on va vers la Lune. Alors, au total, donc, 15 vaisseaux Apollo produits. Pour le module lunaire, le LEM, c'est-à-dire l'espèce de gros insecte métallique que vous voyez sur la photo de droite, ce sera 12 exemplaires. Ici, deux partenaires essentiels. Il y a toute une multitude de partenaires très importants, mais pour le vaisseau Apollo et pour le module lunaire, les deux principaux, ce sont d'une part la firme nord-américaine et d'autre part la firme Grumman Aerospace. Quelques chiffres concernant le programme Apollo. Au total, vous aurez 11 missions, dont 6 en surface. 12 hommes ont eu l'occasion de marcher à la surface de la Lune. Ce n'est pas énorme. On rapporte à peu près 400 kilos de roches lunaires. Et surtout, vous aurez des dérivés technologiques très importants. Il y a plein de choses qui sont rentrées, je ne vais pas dire dans la vie courante, mais presque. Les commandes de vol électriques qu'on voit sur les avions. C'est issu du programme Apollo. Un point sur lequel je voudrais insister, c'est qu'au plus fort du programme Apollo, vous avez tout de même 430 000 personnes, au maximum 430 000 personnes qui seront employées. Le coût final du programme, il s'affiche à l'écran, c'est l'équivalent aujourd'hui de 250 milliards de dollars environ. Je précise. Alors voilà pour le programme Apollo. Après les véhicules Apollo, on va tourner autour de la Terre avec la navette spatiale. Et du coup, la NASA va faire appel à Boeing pour mettre au point cet engin spatial qui est censé au départ faire baisser le prix d'accès à l'espace. Comme vous pouvez le voir sur le slide, le prix d'une mission dans l'espace, c'est de l'ordre de 800 millions à 1 milliard et demi de dollars. La NASA va exploiter 6 navettes spatiales, dont une seule n'ira pas dans l'espace, Enterprise. Elle servira pour valider les tests d'atterrissage. Et les autres orbiteurs donc, accompliront un total de 135 missions. Malheureusement, la carrière opérationnelle du shuttle sera marquée par deux accidents mortels, le premier en 1986 et le dernier en 2003. Alors, à la suite de cet événement, la NASA est soumise à un problème très sérieux. Elle doit terminer l'assemblage de la Station spatiale internationale. Elle décide donc de garder la navette en service jusqu'en 2010. Mais au cours des années 2000, là, ça va être un tout nouveau contexte. Vous avez, c'est la fin de la guerre froide, bien sûr, depuis une bonne dizaine d'années. Vous avez 15 pays qui travaillent pour mettre au point, pour rassembler l'ISS. L'ISS, c'est le Stade de France dans l'espace. Essayez d'imaginer le Stade de France dans l'espace. Vous l'avez sous les yeux. Alors, en 2011, la navette est retirée du service. Vous n'avez plus qu'un seul vaisseau pour assurer la desserte de l'ISS. C'est le vaisseau Soyouz qui envoie les équipages donc jusqu'à la station spatiale. Thomas Pesquet, dans le cadre de sa première mission, a volé sur un vaisseau Soyouz. Et parallèlement, la NASA va mettre en compétition les différents acteurs industriels du spatial américain, notamment pour assurer la desserte cargo, c'est-à-dire envoyer toutes les fournitures nécessaires pour accomplir les différentes missions dans l'ISS. Et vous apercevez le nom Dragon. Dragon, c'est le nom de la capsule de SpaceX. SpaceX devient un partenaire peut-être privilégié, certes, mais un nouvel acteur qui commence à s'imposer dans le paysage mondial spatial. Le programme COTS, c'est le programme qui sert à assurer donc la desserte cargo, COTS pour Commercial Orbital Transport Service. Un deuxième programme est mis sur pied. Si on envoie d'un côté le cargo, il faut envoyer les équipages aussi. C'est le programme CCP pour Commercial Crew Programme et qui va permettre en 2014 la sélection de deux prestataires importants, SpaceX et Boeing, qui se voient allouer respectivement 2,6 et 4,2 milliards de dollars pour mettre au point le Crew Dragon sur la gauche et le CST-100 Starliner sur la droite, la capsule de Boeing. Alors, la capsule de SpaceX, elle fonctionne bien maintenant, elle a déjà volé 4 fois, dont une fois une mission privée. Et je vais revenir sur ce point dans un instant, puisque vous le voyez, de 2002 à 2023, 4 missions supplémentaires vont avoir lieu et ce seront des missions privé. Starliner, c'est un vol automatique, n'a fait qu'un vol automatique. Le programme est extrêmement en retard car Boeing a connu des problèmes, notamment des problèmes logiciels sur le vaisseau. Je vous le disais, aujourd'hui, ce sont 2 vaisseaux privés qui sont exploités dans la mesure où la NASA n'achète plus un vaisseau, elle achète un service qui est assuré à la fois donc par SpaceX et par Boeing. Du coup, ces deux prestataires peuvent tout à fait proposer les services du Crew Dragon ou du Starliner à n'importe quelle entité. Alors, l'arme fatale de SpaceX, si vous me permettez, c'est le lanceur Falcon 9. C'est un lanceur ultra polyvalent, qui est positionné sur plusieurs cibles, les satellites commerciaux, les charges institutionnelles, mais aussi le vol habité. Depuis maintenant l'année dernière, je vous le disais, 4 vols ont été effectués. Thomas Pesquet est monté sur l'ISS dans une capsule privée au mois d'avril dernier. Mais la clé du succès la plus importante de SpaceX, c'est bien évidemment celle de la réutilisation. Vous avez à l'écran les chiffres annoncés par SpaceX en matière de récupération. On a récupéré 85 fois un premier étage de Falcon 9 à terme, d'ici quelques années. Ce que veut SpaceX, c'est pouvoir réutiliser intégralement le lanceur. Pour l'instant, ça n'est pas encore le cas. Et puis, ça va de plus en plus vite. Il y a la mise en œuvre, la remise en œuvre du Falcon se fait très rapidement. Le délai maintenant est très, très court. On est arrivé à 27 jours entre 2 missions pour un seul et même, étage. Un lanceur qui est assuré, qui est exploité depuis 2 sites très importants, d'une part la Floride et d'autre part la base de Vandenberg en Californie. Mais il y a tout de même aussi un 3e site qui n'est pas réservé au Falcon 9, mais au Starship. Le Starship, c'est le super lanceur de SpaceX sur lequel je vais revenir dans un instant. Quelques chiffres très rapides à titre de comparaison entre Falcon 9 et Ariane 5. Vous voyez que le volume de lancement n'est pas tout à fait le même pour Falcon et pour Ariane 5. Ariane 5 en 2020, c'était 3 tirs, mais j'exclus les lanceurs Vega et Soyuz qui n'ont pas la même capacité d'emport qu'Ariane. Ariane et Falcon sont à mettre sur un pied d'égalité. Donc. Alors SpaceX aujourd'hui, peut-on dire si oui ou non SpaceX est la première agence spatiale privée au monde? Ce qu'on peut dire, ça me paraîtrait quand même un peu exagéré, mais ce qu'on peut dire, c'est que SpaceX aujourd'hui est présente sur absolument tous les fronts. D'une part l'Internet avec Starlink, la constellation Starlink, qui est voulue par Elon Musk, une constellation qui devrait compter donc 12 000 satellites d'ici 2025 pour assurer un Internet à très, très haut débit. C'est aussi le marché des charges commerciales, des charges institutionnelles, et comme je vous le disais donc il y a quelques instants, celui des vols habités. Alors, la flotte SpaceX, 3 lanceurs sont mis en avant. Le Falcon 9, qui est exploité depuis 2010, qui est opérationnel depuis 2010. Le Falcon Heavy, depuis 2018, qui permet d'envoyer des charges extrêmement lourdes dans l'espace. et actuellement en développement, c'est le Starship Super Heavy. Alors lui pourrait envoyer plus de 100 tonnes en orbite basse. Un premier essai orbital est attendu en principe fin 2021. Il se peut que ce soit début 2022. Voilà à quoi ressemble le Starship Super Heavy. C'est un lanceur hors norme. Hein. Vous avez 29 moteurs à la base du premier étage. L'informatique permet heureusement doit permettre de faire fonctionner tout ça sans trop de problèmes. L'objectif final, la perspective finale d'Elon Musk, ça aurait été d'envoyer un premier Starship en 2024. C'est très optimiste. Le temps, façon Elon Musk, a quelque chose de toujours très relatif. Hein. Il faut être bien clair. L'ambition ultime d'Elon Musk, ça serait de faire de l'homme une espèce multiplanétaire, selon ses propres termes, hein, je précise. Mais c'est un objectif qui ne peut se concevoir qu'à très long terme et qui passera d'abord par la Lune, notamment dans le cadre du programme Artemis, qui doit permettre à la NASA et à ses partenaires internationaux de revenir sur la Lune, vraisemblablement pour 2025. Alors, pour finir, quelques chiffres, quelques données clés. SpaceX, c'est une entreprise qui a moins de 20 ans maintenant, qui a été fondée par Elon Musk, qui est située en Californie et qui, selon Nasdaq, a généré à peu près 1,6 milliard de dollars pour cette année. Mais bien sûr, ça n'est encore qu'une estimation. Et ce que je tiens à dire, c'est que SpaceX, aujourd'hui, c'est l'acteur incontournable du spatial mondial. Voilà.
Merci beaucoup. Merci pour cette introduction. Donc, s'il y a parmi tous les étudiants qui nous suivent, il y a des signataires du manifeste pour un réveil écologique, vous aurez pu vous rendre compte qu'on était là pour parler industrie et non pas évidemment faire l'apologie du tourisme spatial de Bezos et Branson. Je pense que évidemment personne autour de cette table ne peut cautionner l'idée d'une empreinte carbone pour partir 10 minutes dans l'espace. C'était pas le propos. Dans ce qu'on entend, Antoine, dans vos propos qui sont très clairs, c'est vous évoquez cette somme faramineuse de 250 milliards de dollars pour les premiers programmes exploratoires. Est-ce que vous diriez du coup que le privé est arrivé, parce qu'en fait le public arrivait à bout de subsides? Est-ce que c'est comme ça que ça s'est fait historiquement?
Non. Pour en revenir au programme Apollo, il faut préciser que c'était un objectif politique à la base. Hein. Aller sur la Lune au départ, c'était une ambition qui était... C'était un pari lancé par Kennedy. Le point de départ, c'est Gagarine. Gagarine a tourné autour de la Terre pendant moins de 2 heures. Kennedy a dit on a envoyé Shepard, mais Shepard il a fait un bond de 15 minutes dans l'espace, mais ça a suffi à dire pour faire dire à Kennedy, bon, nous aussi on peut envoyer des hommes dans l'espace, mais puisque vous nous lancez un défi, nous on va vous en lancer un autre encore plus ambitieux. Dans moins de 10 ans, on envoie un homme sur la Lune et on le ramène sain et sauf. Alors essayez d'imaginer, vous êtes le patron de la NASA, vous entendez votre commandant en chef qui vous dit « Tu m'envoies un homme sur la Lune et tu as moins de 10 ans pour le faire. » Vous dites « Je fais comment ?» Vous faites travailler toute une industrie. Le programme Apollo, c'est plus de 400 000 personnes qui travaillent jour et nuit en moins de 10 ans pour déposer 2 hommes à la surface de la Lune. Et puis la Lune, ça a été 6 missions, 400 kilos de roches rapportées, mais c'est peu. On n'a fait qu'effleurer la surface des choses. Ça a fait travailler une industrie, et ça, c'est important de le souligner.
Mais alors, je reviens à ma question de façon un peu mécanique, triviale, mais l'arrivée d'un acteur comme SpaceX, si ce n'est pas nécessairement une question de subsides, c'est parce qu'il y a un moment, un acteur comme la NASA, un acteur d'État, se dit en fait, je vais aller chercher quoi chez le privé? Une capacité d'innovation d'une plus petite structure, une capacité à se remettre en cause qui est plus forte. Pourquoi est-ce qu'on fait un partenariat à la base?
On a besoin du privé. Il faut préciser aussi une chose, c'est que la NASA voulait lancer à la fin des années 2000 un vaisseau qui s'appelle Orion, qui va entrer en service, qui va servir pour aller sur la Lune. Le problème, c'est que ce programme a entraîné année a pris du retard. Du coup, la NASA s'est tournée vers le privé pour mettre au point un vaisseau qui permette d'assurer la desserte de l'ISS. La problématique, c'était d'un côté, bon, on veut un nouveau vaisseau, il prend du retard, est-ce qu'on ne peut pas voir si le privé peut nous fournir cette prestation ? Donc là, c'est important. Et puis le contexte, il n'est plus du tout le même. Vous aviez, dans les années 60, deux blocs qui s'opposaient, le bloc l'OTAN, les États-Unis face à l'URSS. Là, le rapport, il est complètement... Aujourd'hui, les Russes, ce sont des partenaires à part entière de l'ISS. Ils ont leur mot à dire. Ils ont connecté, il n'y a pas très longtemps, un nouveau module à l'ISS. C'était attendu depuis très longtemps. Et puis, on se dirige aujourd'hui vers une privatisation de l'orbite basse. Il y a un bouillonnement d'activité sur l'orbite basse qui n'existait pas il y a 20 ans. Au cours des 10 prochaines années, ce qu'on devrait voir apparaître, ce sont des petites structures orbitales qui pourront éventuellement avoir une activité touristique. Mais je dirais que c'est secondaire, ça. L'idée, c'est aussi de permettre à des laboratoires de recherche, à des institutions qui ont besoin à un moment donné de réaliser une manipulation sur un temps relativement bref, quelques jours, quelques semaines. Donc du coup, ça, ce type de structure sera susceptible d'y parvenir, et grâce notamment au secteur privé.
Alors juste un dernier mot quand même sur ce recours au secteur privé. Le contexte a changé, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais c'est vrai qu'avant, quand il y avait un opérateur unique qui en plus du coup était étatique, avait la chance d'avoir... À l'époque, on ne disait pas le quoi qu'il en coûte, mais c'est un peu l'idée. Et en plus de pouvoir mobiliser tous les hommes, là, vous l'avez dit vous-même, il y a toujours des surpromesses chronologiques de la part d'Elon Musk parce qu'il voudrait que ça aille très vite. Le risque, il est quoi ? Enfin, la potentielle déception à travailler avec un acteur privé, c'est dans la réalisation qui ne fonctionne pas, c'est dans le fait qu'on n'arrive pas à trouver de nouveaux moyens.
Alors, c'est vrai que les objectifs, quand Elon Musk parle d'envoyer des hommes sur Mars, personnellement, moi, je suis le premier à vouloir qu'il y ait un homme sur Mars dans les 10-15 ans qui viennent. Mais je tiens à dire une chose, le temps façon Elon Musk, il est très relatif. Dans le cas du Falcon Heavy, tout le monde l'a vu arriver, on se demandait quand est-ce qu'il serait disponible. Il était présenté à coup de vidéos 3D très bien faite. Il était annoncé pour 2014. Ensuite, ça a été 2015. Et finalement, il a volé en 2018. Alors, ce qui prouve une chose, c'est quand Elon Musk dit quelque chose, il y arrive, il le fait. Pour le Starship, c'est un vaisseau de science-fiction, mais la volonté d'Elon Musk, si vous voulez, c'est de faire de la science-fiction une réalité, finalement. C'est ça qui est très surprenant, mais c'est aussi ce type de démarche. Vous avez des acteurs privés qui sont prêts à dépenser des sommes énormes pour ouvrir un nouveau pan de l'astronautique. Et c'est à mettre peut-être sur le même plan que ce que faisait Howard Hughes dans les années 30 pour permettre une démocratisation, une ouverture du secteur aérien.
Écoutez, l'avenir le dira. Donc si vous avez des questions sur le spatial, n'hésitez pas. Je reviens vers vous dans quelques instants.
Avec plaisir.
Antoine, je vais me tourner vers vous. Vincent Delcourt. Alors attention, je prends du souffle, vous êtes directeur partenariat performance et intelligence technologique, c'est bien ça, pour le groupe SNCF. Vous êtes monsieur énergie aussi, c'est pas seulement un surnom, c'est une question de compétences. Il y avait deux points que je voulais aborder tout particulièrement avec vous, c'est le partenariat avec un acteur industriel qui s'appelle Alstom, et puis avoir une ouverture européenne avec la Deutsche Bahn. Mais peut-être un petit commentaire sur ce que vous venez d'entendre, ça a l'air plutôt sympa, c'est ces partenaires privés qui arrivent avec des milliards pour faire progresser la science.
Oui, alors je vais tout de suite rebondir parce que Antoine nous a fait un peu rêver, je pense à tous ceux qui nous écoutent, à tous les étudiants. Alors je vais montrer aussi que le ferroviaire peut faire rêver. On est actuellement dans une mouvance technologique extrêmement importante. Et on voit qu'aujourd'hui, tout ce qu'on peut voir sur des technologies comme le cognitif, l'intelligence artificielle, sur la robotique, sont en train de devenir des réalités pour le ferroviaire. Donc, mon job consiste justement à créer tous les partenariats pour accélérer ces innovations. Et on a un travail qui est important, puisque aujourd'hui, on est dans une définition du système ferroviaire de demain avec une ambition forte. Et l'innovation est évidemment au service de cette ambition. L'ambition, elle est simple, hein, c'est l'attractivité vers le monde ferroviaire, c'est la performance, on a une question évidemment de modèle économique, on a beaucoup parlé de gros sous à l'instant, et puis enfin, le sujet, je vous l'avais évoqué, hein, c'est évidemment cette mobilité décarbonée sur laquelle on est en train de basculer dans une nouvelle ère qui est extrêmement intéressante et extrêmement enthousiasmante.
Et peut-être justement, c'est ça qui est intéressant. Là, pour le coup, ce n'est pas du tout opportuniste. Ça s'est écrit comme ça. L'idée du partenariat que vous avez avec Alstom, il s'inscrit, enfin, il s'est posé sur les fonds baptismaux de la stratégie nationale du groupe sur une stratégie nationale bas carbone. C'est le point de départ, c'est le point d'entrée.
Alors, tout à fait. On s'est très vite rendu compte que l'attractivité du mode ferroviaire, on devait la conforter. Juste à titre d'exemple, hein, vous le savez, notre réseau est quand même très électrifié. Une grosse partie de notre trafic ferroviaire se fait par des trains électriques, mais on a encore une partie d'exploitation qui se fait avec des trains thermiques. Et donc, la question s'est posée, on l'a vu dans cette évolution sociétale, quel avenir pour cette mobilité ? Quel avenir pour cette mobilité qui est particulièrement destinée plutôt au transport régional, au TER. Alors, quelques mots. Moi, j'aime bien cette notion de partenariat et d'innovation. C'est à la fois deux mots qui sont extrêmement proches, qui sont nécessaires l'un à l'autre, mais dans la pratique, et c'est là-dessus que je vais donner un peu mon expérience, comment est-ce qu'on met tout ça en œuvre, comment on met tout ça en musique, parce que à la fois, on a besoin des autres, mais à la fois, on doit être aussi dans un cadre de contrat, on en a parlé tout à l'heure, hein, on est borné par un contrat, et lorsqu'on parle de partenariat industriel, on est, à un moment ou un autre, dans l'adéquation entre avancer, innover. Innover, c'est prendre des risques. Et prendre des risques, c'est souvent assez antinomique avec quelque chose qui est assez structuré dans le cadre d'un contrat. Alors, à ce titre, c'est un peu le point de départ. Lorsqu'on a décidé de travailler sur la décarbonation du ferroviaire, on s'est dit, un, à la fois, on ne peut pas le faire seul. Deux, il faut qu'on soit dans un mode de travail qui soit différent de la simple relation client-fournisseur qu'on a depuis longtemps dans le monde du ferroviaire. Nous, en tant que donneurs d'ordre, en tant que spécificateurs vis-à-vis des industriels, en particulier d'un industriel que l'on connaît bien vis-à-vis d'Alstom, on s'est dit qu'il faut qu'on travaille autrement. À la fois autrement dans nos méthodes, à la fois dans la prise de risque, mais aussi en élargissant ce spectre qui est un peu notre ADN. On reste dans une force technique. Il faut ouvrir à d'autres éléments qui permettent à l'innovation de trouver son marché. Et c'est pour ça qu'on a eu à la fois des méthodes de conception un peu innovantes. On s'est adressé avec l'école des mines sur des méthodes de conception innovantes. Et puis aussi, on a fait rentrer assez tôt dans le projet, et là je pense que Hélène rebondira juste après moi, sur ce qu'on appelle les utilisateurs finaux. Et les utilisateurs finaux aussi pour nous, ce sont aussi les autorités de transport, donc ce sont les collectivités locales, ce sont les conseils régionaux, pour prendre très en amont leurs besoins. Et donc on s'est retrouvé dans un triptyque qui était à la fois l'évaluation du besoin, la réponse technologique et aussi l'adaptation de produits qui étaient développés par les grands industriels. Alors, en quelques mots, tout notre travail a consisté à la fois à sortir, comme je le disais, de ce cadre très formaté de clients-fournisseurs, de spécifications, et de se dire comment est-ce qu'on allait gérer les aléas, comment est-ce qu'on allait gérer les problèmes qu'on rencontre, in fine, lorsque l'on développe quelque chose d'aussi innovant que des nouvelles chaînes de traction décarbonées. Alors, un petit mot, je pense que vous avez tous entendu parler du train à hydrogène, du train à batterie, du train hybride. Alors, juste ce qui me semble important, c'est de rappeler que SNCF s'est positionné avec les autorités organisatrices sur le développement d'un portefeuille de solutions. Alors, pourquoi un portefeuille de solutions ? Et c'est en ça que je dis les besoins sont différents. Hélène connaît bien un territoire, mais on pourrait citer évidemment que chaque région a des besoins de mobilité différentes. Et donc, on ne peut pas apporter une réponse unique à cette question de la décarbonation. Donc, en ce sens, on a travaillé à la fois dans un premier temps sur l'hybride. Alors, l'hybride, pour faire très simple, en quelques mots, sans trop faire technique, c'est ce que vous connaissez tous. Vous connaissez tous la Prius de chez Toyota. Bon, voilà, on enlève une partie de la motorisation diesel, on met des batteries. Et on s'est dit assez vite, c'est un produit qui peut trouver son marché parce que contrairement au marché de l'automobile, on est sur des temps longs. C'est 40 ans, le temps d'un train. Donc, on dit c'est aussi quelque chose sur lequel on peut faire une modification sur le matériel. Donc, on est très vite parti outils. Et globalement, j'ai rien inventé. Quand on parle de partenariat, c'est regarder aussi ce que font les autres. Et donc, on s'est inspiré de ce que se faisait sur l'automobile. La seule différence, c'est que l'automobile, c'est ce qu'on appelle en bon français du mass market, alors que le ferroviaire, on est sur une niche. Et donc, arriver, quand on dit niche, c'est des modèles économiques qui sont compliqués. Donc, le partenariat industriel aussi, avec un intégrateur aussi important qu'Alstom, mais aussi avec les fournisseurs, c'est être en capacité de ne pas surspécifier pour du ferroviaire, pas faire du spécifique, mais aussi intégrer ce qui se fait pour au juste besoin. Il y a une forme de frugalité dans cette intégration et c'est tout le travail qu'on a fait avec le constructeur. Alors, hybride, j'en ai dit quelques mots et puis très vite, on s'est dit on peut certainement faire mieux, aller plus loin. Alors, je ne suis pas tout à fait aussi visionnaire que ce qu'on a vu avec Elon Musk, mais on s'est très vite dit on peut aller plus loin, on peut travailler un produit qui est le train 100% batterie, on peut travailler quelque chose vis-à-vis de l'hydrogène qui est un vrai vecteur d'avenir, avec aussi une vision qui ne se limite pas, et j'en dirai quelques mots, au simple territoire national, parce que quand on parle de partenariat, les frontières du ferroviaire, ça se joue sur le continent européen, donc on a aussi des questions d'interopérabilité, de normes qui sont complémentaires aux questions technologiques. Donc, quand on parle de partenariat, c'est évidemment des partenariats industriels. Et pour quelques mots sur ces partenariats industriels, comme je le disais, toute la relation qu'on a construite, et je vais redire un mot qui me semble très bien illustré, c'est cette confiance. Comment on arrive à créer une confiance, un cadre de confiance dans quelque chose qui est borné, et comment est-ce qu'on arrive à redéfinir quelque chose sur lequel on arrive à prendre des paris où c'est risqué, et pas simplement, tout à l'heure Pierre le disait, on le connaît bien sur les travaux, à un moment quand ça va mal, qu'est-ce qui se passe? Et bien sur l'innovation, c'est pareil, quand les choses ne vont pas tout à fait dans le sens où on veut, comment est-ce qu'on arrive à gérer ça et trouver des solutions communes. Alors, deux exemples à ça. On a parlé avec Alstom, évidemment, des sujets de décarbonation. On travaille ensemble sur la définition, sur la prise en compte des besoins d'exploitation. Il y a un autre exemple dont vous avez tous entendu parler, qui est très illustratif avec ce qu'on a pu faire avec Alstom. C'est le TGV du futur, c'est le TGVM. Et puis, il y a un mot, un cadre juridique qui commence à émerger, qu'on commence à tester, c'est les partenariats d'innovation. Donc, les partenariats d'innovation nous définissent aujourd'hui aussi un cadre qui nous a permis, là, c'est le cas, pour le futur TGV, de travailler très en amont à intégrer un maximum d'innovation tout en étant drivé par aussi un modèle économique qu'on doit tenir. Donc, c'est extrêmement riche. Les partenariats sont riches. Les partenariats avec l'innovation, c'est possible. À partir du moment où on se met dans un autre cadre, qu'on arrive à sortir un peu du modèle client-fournisseur, tu n'as pas fait ça, c'est de ta faute, et essayer au maximum d'éviter le conflictuel pour essayer d'être le plus constructif en élargissant, j'allais dire, le cercle au-delà des industriels vers les autorités organisatrices.
C'est des partenariats non exclusif. On est d'accord que si Alstom travaille avec dans d'autres pays d'Europe, avec d'autres compagnies ferroviaires, ils pourront mettre à pratique ce qu'ils ont appris avec vous pour changer. Enfin, je crois qu'un train, c'est un TER, c'est 4 moteurs, donc vous en enlevez 2 pour mettre des moteurs hydrogène. Ils pourront faire la même chose dans d'autres pays. Et vous-même, si jamais vous décidez de contractualiser avec, je sais pas moi, un autre constructeur. Canadien, par exemple.
À tout hasard.
À tout hasard.
Qui est un revenu très français.
La chose est possible.
Oui, alors tout à fait. On a évidemment plusieurs marchés. On définit très en amont les cas d'usage. On a plusieurs cas d'usage qui peuvent apparaître. La vente de trains neufs, la maintenance, les modifications de matériel. Donc, on a tout un tas de cas d'usage où on définit très en amont ce que l'on peut faire. Mais ce qui est important de dire, c'est qu'évidemment, travailler ensemble, pour nous, c'est pour Alstom, dans un premier temps, c'est extrêmement important parce que son marché ne se limite pas à la France. On l'a bien vu, le train hydrogène, Alstom fait des annonces sur l'Angleterre, sur l'Italie, sur l'Allemagne pour développer cette technologie-là. Et pour nous, on a aussi des vrais marchés. Je rappelle aussi, pour tous ceux qui connaissent un peu le ferroviaire aussi, toute la puissance que nous avons au travers de notre technicentre industriel en termes de maintenance. Et donc, on a un marché aussi important pour nous, à la fois sur la modification de ces matériels-là, mais aussi sur leur entretien. Donc, on voit que chacun aussi à des segments de business qui sont complémentaires.
Alors ensuite, vous avez déjà esquissé un mot sur la problématique de l'Europe du ferroviaire. On en avait parlé un peu le 30 juin, puisque Angela Merkel, avant de quitter le pouvoir, avait dit qu'il ne peut pas y avoir d'Europe verte sans une Europe du ferroviaire. Je voyais un article la semaine dernière disant qu'il y avait des débats au Parlement européen pour obtenir un chargeur universel de portable pour des questions écologiques, une prise unique, quelle que soit la marque de votre téléphone portable. On ne fera pas de pub, mais ces questions aussi triviales, en fait, elles se posent pour vous, parce qu'en France, en Allemagne, on n'a pas nécessairement les mêmes prises, les mêmes normes, les mêmes rails. Donc, quand on travaille avec la Deutsche Bahn, avoir un partenariat, c'est aussi descendre à ce niveau de granularité. Quoi.
Alors oui, c'est important. Le partenariat, j'aime beaucoup l'exemple sur les chargeurs de téléphone portable, parce que je vais rebondir tout de suite dessus. Typiquement, j'ai évoqué juste avant les trains à batterie. Alors, les trains à batterie, on l'a vu, se posent. On a une multitude de fournisseurs, ce qu'on appelle les fournisseurs de rang 2, hein, qui sont les providers de ces systèmes-là, qui vont apparaître sur le marché. Et évidemment, tout le jeu consiste, c'est un peu comme l'iPhone, avec le chargeur de l'iPhone, chaque fournisseur de batterie va avoir sa propre, ou veut avoir sa propre connectique sur le train. Donc, tout le job que l'on fait, c'est important, c'est d'avoir une position commune très normative hein, avec les Allemands pour dire non, stop, on arrête là. Le but du jeu, c'est qu'il y ait une norme de connexion avec les batteries pour que nous, en tant qu'exploitant ferroviaire, demain, on soit libre de changer de fournisseur. Donc, c'est extrêmement important sur les modèles économiques de demain de pouvoir travailler ces éléments normatifs. Là, c'est un exemple, mais on le travaille aussi. Alors, c'est le terme, ce sont les Eurospec, hein, donc c'est cette définition de standard. Mais c'est aussi la question demain de l'interopérabilité. Hein, on l'a vu, on a des normes aujourd'hui qui essayent de régir cette question d'interopérabilité. Donc, on travaille sur les spécifications techniques d'interopérabilité sur ces nouveaux trains. Et la définition au-delà de ça, de cet élément normatif, tout ce qu'on essaye de tirer de ce partenariat très fort avec nos amis allemands, c'est aussi de s'associer parce que, je l'ai dit en introduction, le marché du ferroviaire reste un marché de niche. Donc à partir du moment où deux grands noms du ferroviaire s'associent pour définir une base commune technologique, c'est aussi un marché plus important vis-à-vis des industriels et c'est aussi des modèles économiques intéressants. Donc lorsqu'on est dans la définition d'une architecture, autant avoir une architecture la plus commune possible pour des questions d'interopérabilité, mais aussi pour des questions de relations avec les industriels et de modèles économiques. Donc en ça, le partenariat avec nos amis allemands sur l'architecture du système ferroviaire de demain, sur les questions d'automatisation, de couplabilité, sur les questions aussi énergétique qu'on a vu, c'est du normatif et aussi une relation repensée avec les industriels européens. Enfin,
normalement, justement, encore une fois, dans le cadre du Green Deal, on peut se dire que ces questions de normalisation, elles devraient être poussées par les enjeux environnementaux parce que plus on a des données universelles, moins on dépense de ressources puisque évidemment c'est interchangeable.
Oui, alors en effet, dans le cadre du Green Deal, on voit qu'on est poussé fortement sur ces questions-là. La question, l'or, pas noir, mais justement le nouvel or, c'est aussi la data. Hein, vous venez d'en toucher un mot. Je vais juste rebondir là-dessus. Se pose aussi la question dans ces partenariats aujourd'hui d'être en capacité d'aller récupérer un maximum de données. Parce que demain, c'est aussi la performance de l'exploitation, la maintenance qu'on va associer, cette maintenance prédictive. C'est aussi de ne pas être face à une boîte noire conçue par les industriels, mais aussi de pouvoir récupérer ces données-là. Et puis enfin, je vais donner un autre exemple pour rebondir sur cette vision aussi de la data, de l'ouverture. Il y a quelque chose d'assez fort qu'on voit émerger en termes partenarial au niveau plutôt IT, software. C'est tout ce qui concerne l'open source. Alors l'open source, c'est un vrai sujet aussi pour nous aujourd'hui. Et ça, c'est un sujet fort de notre axe franco-allemand, c'est pas redévelopper du spécifique, mais on voit bien que c'est bien la définition du partenariat, l'open source, hein, c'est ouvrir le code à des partenaires extérieurs pour pouvoir faire quelque chose ensemble de plus performant, de plus puissant, à un coût économique qui soit le plus acceptable possible. Donc on voit bien qu'on est sur du hard, aussi sur du soft, et que travailler ensemble, ça nous apporte énormément de bénéfices.
Et peut-être juste pour terminer, on a parlé de nos amis allemands, mais là encore, vous n'êtes pas dans une relation exclusive de couple. On peut imaginer des unions libres à travers toute l'Europe, quoi.
Alors, tout à fait. On a des partenariats stratégiques académiques un petit peu partout. On a une relation un peu historique de confiance avec nos amis japonais aussi, qui sont dans l'excellence sur le système ferroviaire. Je parlais aussi de... Juste un mot, je trouve que c'est intéressant. Je m'intéresse aussi beaucoup et j'ai voyagé plusieurs fois au Japon. Il faut aussi prendre dans le partenariat les différences culturelles. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressé. Le partenariat avec d'autres pays, d'autres cultures, comme avec le Japon, bah, ça ne se fait pas en une fois, ça ne se fait pas en un voyage. C'est une confiance qu'on a établie sur le long terme. Et aujourd'hui, cette relation de confiance, dans un monde qui est relativement fermé, hein, on arrive à pouvoir échanger, avoir beaucoup d'informations et être dans une relation de confiance. Donc voilà, donc cette notion aussi, et je m'adresse aussi à tous les étudiants, hein, s'ouvrir, aller voir ailleurs, curiosité et multiculturel, je trouve que c'est passionnant. Donc en gros, venez faire de l'innovation dans le ferroviaire.
C'était un appel du pied peu discret, mais très bienvenu. Merci beaucoup. On va finir ce premier tour de table avant de faire comment dire, le débat avec vous. Hélène Vasseur, vous êtes directrice territoriale SNCF Réseau en Normandie. Dans une carrière précédente, vous étiez chez Fret SNCF, donc vous êtes bilingue français Fret.
C'est tout à fait.
C'est une langue à part entière, c'est un monde à part entière. On va venir au fret, mais une petite réaction peut-être sur ce que vous venez d'entendre. Est-ce que vous rêvez d'avoir un partenaire privé comme SpaceX qui vienne vous développer ?
On n'en est pas complètement là encore, mais en tout cas, dans le ferroviaire, Vincent en a parlé aussi, on est ouvert à faire ce type de partenariat privé pour... On a besoin d'argent parfois aussi, même si ce n'est pas que de l'argent public. Et dans le fret particulièrement, on va y venir, on a beaucoup de défis à relever. On a un énorme potentiel devant nous, donc tout partenariat extérieur sera le bienvenu.
Alors, pour rappeler un peu comment est-ce qu'on avait conçu cette conférence, on était d'abord parti dans l'espace avant de redescendre sur Terre. Et là, on va envisager les nouvelles coopérations entre le ferroviaire et les barges, puisque c'est un des projets dont vous occupez avec un partenariat avec les Voies Navigables de France. Lors de la première conférence qu'on avait tenue sur le train du futur, il y avait votre homologue Grand Est, Laurence Berru, qui était venu discuter et qui avait dit un tout petit mot sur le fret. Et je sais que ça avait frustré l'audience qui voulait en savoir davantage, puisque si on veut que le ferroviaire soit un mode de transport réellement écologique à l'avenir, il ne faut pas se contenter des passagers, il faut aussi aller vers les marchandises et le fret. Peut-être pour si celles et ceux qui nous suivent ne sont pas complètement habitués, est-ce qu'on peut...
Pas tous bilingues français-fret.
Français-fret, est-ce qu'on peut redonner une petite carte, une petite datavise pour faire plaisir à Vincent sur les marchandises aujourd'hui, comment est-ce qu'elles circulent sur la route, sur ferroviaire et sur barge?
Alors déjà, bonjour à tous. Effectivement, les chiffres, vous allez le voir, sont très parlants et ils montrent qu'on a effectivement un gros potentiel qui s'ouvre à nous avec les opportunités green dont on a déjà un peu parlé. Le ferroviaire aujourd'hui, c'est 9% de la part de marché du transport de marchandises. Et le fluvial, c'est 3%. Donc les deux modes mis bout à bout ensemble, c'est 12%. Donc on voit rien que sur ces chiffres-là le potentiel qu'on a. Et puis bien sûr, c'est quand même toujours l'occasion de se redonner quelques repères d'un point de vue empreinte carbone. Un train, c'est 40 camions. Donc c'est 40 camions qu'on enlève de la route. Un train, c'est aussi moins de nuisances sonores. C'est moins, d'externalités type bouchon. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, le développement du fret ferroviaire, c'est une des priorités stratégiques du groupe SNCF. Et c'est aussi pour ça qu'on s'est fixé collectivement un objectif de doublement de la part modale, que ce soit d'ailleurs pour le voyageur, mais aussi pour le fret, à horizon 2030.
Donc, bon, vous venez de le dire, l'écart, il est colossal. Comment est-ce que ça s'explique? Est-ce que c'est une question de choix politique? On s'est dit, bon, en fait, voilà, le train, c'est pour les voyageurs, et puis ce sera tout. Est-ce que c'est des différences économiques fortes? Est-ce que ça coûte beaucoup trop cher de mettre des marchandises sur un train? On n'y arrivera jamais. Est-ce que c'est des questions de préférence d'infrastructure des gens qui... des clients, tout simplement?
Alors, dans les chiffres que j'ai cités, en fait, c'est des chiffres qui n'ont pas beaucoup varié depuis 10, 20 ans. C'est en partie lié au fait qu'on, au niveau du fret, on est confronté quand même à un certain nombre d'obstacles. Je vais y venir, même si depuis un an, deux ans, la lumière s'ouvre à nouveau et on a une forme d'alignement des planètes, pour ne pas faire de mauvais jeu de mots avec l'intervention d'Antoine. L'obstacle principal, comme vous le disiez un peu, Vincent, ça reste quand même un choix politique qui date d'il y a assez longtemps, parce que tout simplement... Le routier ne paye pas l'infrastructure sur laquelle il circule. Et ça crée des distorsions de concurrence importantes. Un chiffre, en 2018, par exemple, quand on veut transporter du blé, ça coûte 8 euros de la tonne kilomètre par la route et ça coûte 12 euros de la tonne kilomètre par le ferroviaire. Et on va revenir dans le débat qu'on connaît, qui a eu lieu il y a déjà 10-15 ans autour de l'écotaxe. Mais c'est un vrai obstacle pour le développement du ferroviaire. Et deuxièmement, le ferroviaire, il a une zone de pertinence qui lui est propre. On est avant tout sur du transport massifié, on est souvent sur du sur-mesure. On voit que le ferroviaire, il est adapté pour certains marchés, je pense à la sidérurgie, à la chimie. Il n'est pas adapté à tout. Et il est adapté à un train complet, on va dire. On a plus de mal à transporter des petits formats, donc quelques wagons. C'est ce qu'on appelle dans notre jargon le wagon isolé. Et pour ça, le wagon isolé, c'est une activité qui est fortement en concurrence avec la route. Et c'est là qu'on retrouve notre sujet de non-aide en fait, de l'État. C'est un marché qui est déjà depuis assez longtemps aidé par l'État en Autriche, en Suisse, donc des pays qui sont très pro-ferroviaires. Et en France, on n'avait pas ces aides-là jusqu'à l'année dernière, dans le cadre du plan de relance, où l'État donne aux différentes entreprises ferroviaires de fret une aide pour le wagon isolé. Donc c'est aussi ça qui nous fait avoir de l'espoir sur les possibilités de développement. Après, je tiens à dire qu'heureusement, on n'a pas attendu ces aides-là pour se mobiliser. Nous, au niveau de SNCF Réseau, on travaille depuis déjà un certain nombre d'années avec tous les chargeurs, avec toutes les entreprises ferroviaires pour répondre à leurs besoins, voir comment est-ce qu'on peut développer des flux avec eux. On travaille aussi beaucoup avec les ports, j'y reviendrai. Et puis, l'ensemble des acteurs du ferroviaire se mobilisent. Je pense notamment à la création l'année dernière de l'Alliance 4F, fret ferroviaire français du futur, avec tous les acteurs, les entreprises ferroviaires, les chargeurs, les fédérations. Et c'est cette alliance, notamment, hein, qui a fait pression auprès de l'État pour obtenir de l'argent dans le cadre du plan de relance. Mais on a voulu aller un peu plus loin que simplement le ferroviaire en montant donc un partenariat avec VNF.
Alors, on va venir à VNF dans un instant, mais moi, je vous sens quand même très, très motivé. Vous parlez d'un doublement à l'horizon 2025, et donc c'est très rapide. Qu'est-ce qui vous fait croire, au fond, que vous allez réussir à déstabiliser le routier qui, pour l'instant, écrase le marché ?
Alors, effectivement, l'objectif qu'on s'est fixé dans le cadre de ce partenariat donc, qu'on va développer, c'est de déstabiliser cette domination du routier. Pourquoi ? Déjà parce qu'on a des atouts importants sur les deux modes, qui sont la massification, j'en ai parlé, mais aussi l'empreinte carbone, qui est très faible pour ces deux modes, et on veut profiter de l'alignement des planètes que j'ai évoqué. Un exemple simple, on voit qu'on a de plus en plus d'industriels qui ont envie de recourir à ces modes. Je pense notamment à Ferrero. Ferrero, c'est l'entreprise qui fabrique le Nutella, qui a décidé récemment de faire acheminer son Nutella qui est fabriqué dans la région rouennaise, je ne suis pas chauvine, mais quand même, dans la région rouennaise, vers l'Île-de-France, par la barge. Donc demain, quand vous mangerez du Nutella ou quand vos enfants en mangeront, vous culpabiliserez un petit peu moins. Mais on voit que, voilà, que ces industriels et toute la chaîne logistique derrière commencent à beaucoup plus avoir le réflexe du fluvial ou du ferroviaire. Et puis on a besoin de travailler sur une fiabilité renforcée et donc une complémentarité des deux modes pour que nos clients aient confiance et aient envie de recourir à ces modes.
Alors, on va en venir avec ce partenariat que vous avez monté avec les voies navigables de France. Quand je dis vous, c'est un partenariat national, on y viendra dans un instant, mais c'est vrai que vous êtes chauvine et à raison avec cette belle région normande. Et au fond, ce partenariat, il est né comment justement ? C'est pendant le confinement, les gens, quand ils arrêtaient de lire des journaux de confinement, se sont dit, bah voilà, il faut un monde d'après, il faut un monde décarboné, donc les bateaux et le train, ça pollue moins. Donc, c'est pour ça que c'est né ? C'est comme ça ?
C'est né avant, en fait. Donc, on a été précurseurs. C'est né souvent d'une histoire un peu moyenne, basée sur un mécontentement des clients. Tout simplement, en 2017, il y avait des travaux sur les écluses en Normandie. Et le train n'a pas pu acheminer les marchandises qui devaient être prises par le fluvial. Et donc, ça entraîner une baisse de trafic sur le port de Rouen, qui, j'en profite pour le rappeler, est le premier port céréalier de France. Du coup, suite à ce mécontentement, nos deux directions nationales se sont dit qu'il fallait faire quelque chose et nous ont demandé de travailler sur des axes de partenariat. Alors du coup, qu'est-ce qu'on a fait et comment on s'y est pris ? On a réfléchi ensemble et on a priorisé quelques actions. Je ne vais pas toutes vous les citer, mais Je vais en citer quelques-unes. C'est par exemple le fait de faire une cartographie commune de nos implantations, des différentes capacités d'emport, puisqu'elles ne sont pas forcément connues et on ne voit pas, du coup, comment ces deux modes peuvent être complémentaires. C'est aussi travailler sur la substitution entre les deux modes, tout simplement se parler de quand on fait nos travaux, pour ne pas qu'ils aient lieu en même temps. C'est le retour d'expérience de 2017. C'est aussi quand on sait qu'on va avoir des travaux. Par exemple, nous, en 2022, on fait des travaux dans un tunnel, qui s'appelle la tranchée couverte, qui est la principale voie d'accès au port de Rouen. Et ben, tout simplement, là, on l'a anticipé. On l'a dit, heureusement, bien en avance aux clients et on leur propose de passer par le fluvial. Et enfin, c'est aussi un certain nombre d'offres commerciales, d'actions commerciales en commune. C'est comment identifier les marchés sur lesquels on peut aller prospecter ensemble. C'est mener des actions de promotion commune et c'est définir une offre commerciale qui fait du sens.
Alors, vous en avez dit un mot en parlant des origines en 2017, des mécontentements clients. Mais il se trouve que les barges et le ferroviaire, vous êtes souvent en compétition, enfin, on ne va pas se mentir, sur un certain nombre de secteurs. Donc, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a de la friction? Est-ce que c'est si simple de passer dans ce que les marketeurs appellent la coopétition? Néologisme qui se comprend tout seul, donc
Tout à fait. Déjà,
coopération-compétition, pardon, si je suis allé trop vite.
Non, très bien. Je pense que déjà, on le comprend simplement quand j'ai redit les chiffres tout à l'heure. Hein, on est loin d'être majoritaire. Donc, dans ces cas-là, il est assez simple de se dire qu'ensemble, on est plus fort. Et donc, on a travaillé sur nos forces, en quoi on est des modes complémentaires, qu'on a un maillage territorial très important. D'un côté, avec le fleuve, la barge, c'est un moyen d'entrer dans les villes beaucoup plus simple que n'importe quel autre mode. Et le ferroviaire, c'est un moyen par lequel on va beaucoup plus loin. On va transporter de la marchandise plus loin ou on va réussir à sortir des marchandises du port. Donc, on s'est dit, on va travailler sur ces atouts. Et puis, pour gagner des parts de marché, on a bien conscience aussi qu'il faut qu'on arrive à développer la multimodalité en proposant des solutions logistique pertinente. Et là-dessus, je donne un exemple. Un de nos clients, qui s'appelle Groupe Basalt, Carrière de Vigna, qui fait déjà du ferroviaire, a réfléchi à un projet de plateforme multimodale qui verra le jour normalement en 2023 à la frontière de la Normandie et l'Île-de-France. Cette plateforme, elle lui permettra à la fois de faire venir ses marchandises en ferroviaire jusqu'à Gaillon, en l'occurrence, et ensuite, ces marchandises partiront par le fleuve jusqu'à l'Île-de-France. Donc, ça permettra à ce client d'entrer dans le marché francilien, un marché qu'il n'atteint pas aujourd'hui. Ça lui permettra de faire du fleuve et du fluvial. Ça lui permettra aussi de bénéficier des marchés du Grand Paris. Hein. C'est aussi un sujet d'actualité. Et de renvoyer des marchandises de l'Île-de-France vers la Normandie via des déblais du Grand Paris. Donc, on voit à quel point cette complémentarité peut exister, à quel point elle est concrète et à quel point elle peut être gagnante pour tout le monde.
Alors, je m'en voudrais tirer des conclusions ou des analogies politiques, mais je vois quand même que quand des gens sont à des petits scores, mais mus par une même cause, l'écologie, ils arrivent à s'allier. Mais évidemment, la comparaison s'arrête là. On a beaucoup parlé de la Seine-Normandie, vous venez encore de l'évoquer avec Basalt. Est-ce que ce partenariat avec les Voies navigables de France, il s'exporte outre-Normandie? Alors forcément un petit peu, puisque Laurence Berru en avait dit un mot, mais où est-ce qu'on le retrouve, ce partenariat? Est-ce que c'est simple à dupliquer?
Alors, je pense qu'effectivement, les idées qu'on a identifiées, elles ne sont pas propres à la Normandie. Et ce partenariat a fait des petits. Il a assez vite été exporté vers l'Île-de-France, puisqu'on voit qu'on est... Nous, en fait, on travaille sur l'axe Seine, on ne travaille pas sur la Normandie en tant que telle. Donc, on a un axe en commun sur lequel on travaille avec nos collègues de l'Île-de-France. Vous citiez Grand Est, dans lequel, effectivement, beaucoup d'actions sont en cours, avec la cartographie dont je parlais, qui a été initiée, avec un partage des travaux avec VNF, plutôt sur le Rhin, et puis en Auvergne-Rhône-Alpes, où un questionnaire a été envoyé aux acteurs, tous les acteurs de la chaîne, pour identifier quels sont les besoins pour la multimodalité.
Alors, on va essayer de se projeter un petit peu dans le futur pour voir un peu ce que serait un partenariat réussi. Mais d'abord, même si vous êtes extrêmement optimiste, vous êtes aussi réaliste. Donc, c'est quoi le principal obstacle à lever pour faire en sorte que d'ici 2025, ce doublement ait bien lieu? C'est quoi le plus grand challenge auquel vous faites face aujourd'hui, pour employer un anglicisme?
Alors, Je vais déjà commencer par redire quelque chose qu'on sait tous, mais qui est important de se redire. C'est le plus dur dans le changement, c'est de changer les habitudes. Donc, ce n'est pas parce que nous, on décrète qu'on fait un partenariat avec VNF, c'est-à-dire qu'on s'allie entre gestionnaires d'infrastructures, que ça y est, tout le job est fait. Le vrai challenge, en premier, c'est que l'ensemble des acteurs de la chaîne logistique s'emparent de ce partenariat et voient l'intérêt de la multimodalité. Donc, c'est faire venir des chargeurs, faire venir des commissionnaires qui sont souvent de transport, qui sont souvent prescripteurs dans la chaîne, et convaincre la grande distribution de se convertir finalement à cette multimodalité. Dans l'exemple que je citais sur le Nutella, en fait, c'est Monoprix, je ne sais pas si je peux le citer, qui est à l'origine de ça. Donc, on voit que la grande distribution a vraiment son rôle à jouer là-dedans. Donc, c'est l'ensemble des acteurs qui doivent s'en emparer. Le deuxième obstacle, c'est travailler sur la rupture de charge. D'où le développement des plateformes multimodales dont je vous parlais, qui est un sujet important. Pour rester compétitif, il faut que le temps de parcours reste relativement intéressant par rapport à la route. Et là-dessus, il y a beaucoup d'initiatives qui existent déjà. Je pense notamment au port du Havre, qui est un grand port français, un des plus grands ports français sur le conteneur, qui a développé en 2016 une plateforme qui s'appelle LHTE, qui est déjà une plateforme multimodale où on voit, c'est assez impressionnant, moi j'y suis allée en juillet dernier, on voit les marchandises arriver en ferroviaire depuis le port et ensuite se répartir sur la barge. Donc l'idée, c'est vraiment que l'ensemble des acteurs comprennent l'intérêt de ce partenariat qui on allie à la fois la capacité du fluvial à entrer dans les villes et la capacité du ferroviaire à pousser plus loin la zone de pertinence de la multimodalité.
Je vous demande un petit exercice pour terminer de projection, de prospective, d'imaginer que nous sommes en 2031 et de voir un peu à quel marqueur et quelles seraient les conditions selon lesquelles on devrait examiner ce partenariat avec VNF pour voir si c'est un succès ou pas.
Alors, on l'a dit déjà avec Vincent, Antoine, on s'inscrit quand même dans du temps relativement long. Hein, donc, effectivement, 10 ans, ça commence à être un bon indicateur.
Peut-être 15 ou 20 ans.
Voilà, mais
disons c'est un peu Elon Musk, quoi. C'est un peu, ouais, d'accord, c'est un peu.
C'est Elon Musk, donc on va dire 10+5. Mais ouais. Déjà, nous, on a déjà un premier enseignement, une première comparaison possible. Il y a justement un peu moins de 10 ans, on a monté un partenariat avec Aropa. Aropa, c'est l'ensemble des ports de Paris, du Havre et de Rouen. Donc, ce partenariat, il a porté ses fruits. Ça s'est pas fait en 2 jours. Hein. Donc, c'est un partenariat qui nous a permis notamment de développer d'autres itinéraires de fret, de sortir l'idée du projet Cercueil-Gisors, qui est un itinéraire alternatif qui permet d'enlever des marchandises de l'axe historique, ligne de fret qui a ouvert en mars dernier. Donc ça vient des discussions qu'on a eues avec Aropa notamment. On fait plein d'événements en commun pour promouvoir le fret, puisqu'il faut savoir que pour un port, ce qui est important pour qu'il soit compétitif par rapport au port de la mer du Nord, hein, le port du Havre, il a besoin d'être compétitif par rapport à Rotterdam, par rapport à Anvers. Mais il faut que son hinterland, désolé pour ce terme, mais il faut que son hinterland soit le plus large possible. Et c'est là où le ferroviaire et le fluvial ont toute leur place à jouer. Et donc, on voit que ça commence à porter ses fruits. Et donc, en parallèle, je dirais qu'à horizon 2031 ou 2035, je reviens sur mon objectif de doublement. Tout simplement, ça veut dire que d'ici là, on sera à 25% de la part de marché ferroviaire plus fluvial. Voilà notre enjeu.
Donc on se donne rendez-vous dans 10 ans, évidemment, comme le veut la chanson. On évitera d'être place des grands hommes où la connexion Wi-Fi est mauvaise. On reviendra évidemment au siège de l'UDI. Alors, on a eu des tout petits problèmes de transmission, mais j'ai quand même quelques questions qui sont arrivées. Je commence par le fret et puis j'élargis, parce que j'ai une question sur la propriété intellectuelle sur laquelle je voudrais bien vous faire rebondir tous les trois. On vous demande si vous pensez que le développement du fret ferroviaire doit passer par des infrastructures dédiées, encore plus qu'aujourd'hui.
Je ne sais pas quel est le sens exact de l'infrastructure dédiée, mais en tout cas, on a déjà, faut pas oublier qu'on a déjà un maillage territorial, je le disais, hein, et des infrastructures qui sont déjà là. Donc, on a la possibilité, avec ces infrastructures, de faire énormément de trajets en plus en ferroviaire. Hein, on a le réseau pour. Donc, je ne suis pas sûre que ça passe par du dédié. Après, oui, si on voit qu'il faut rouvrir une ligne de fret parce qu'il y a un marché, parce que ça peut être rentable et parce qu'on a l'argent en face, alors on le regardera.
Une autre question qui arrive pour vous de la part de Sandrine. donne pas de patronyme. Le fret est depuis longtemps l'axe privilégié du gouvernement, mais les sillons disponibles manquent, notamment avec le problème de maintenance des voies. Il y a 5-10 ans, de nombreuses entreprises se sont mises sur ce créneau, mais en sont revenues faute de sillons et donc faute de pouvoir tenir les délais de livraison. Est-ce que vous trouvez qu'elle a raison ? Est-ce que vous pensez que ce problème va être outrepassé ?
Je dirais pas que c'est pas un sujet, parce qu'effectivement, on a toujours ce souci chez SNCF Réseau de travailler sur une meilleure qualité de nos sillons et de, encore plus par rapport au fret, d'offrir des horaires qui conviennent, un temps de parcours qui reste, je le disais, compétitif. Donc c'est un axe de ça reste un axe de progrès pour nous. Mais je tiens à dire déjà que sur la Normandie, par exemple, sur l'axe Seine, aujourd'hui, on a la capacité d'accueillir, notamment grâce à la création de l'itinéraire Serqueux-Gisors, des sillons en plus. Donc le sujet des sillons pour faire du développement depuis le Havre n'est plus un sujet pour nous.
Est-ce que, juste pour rebondir sur ce que disait Vincent, l'Europe du fret, ça peut aussi être un enjeu majeur, parce que après tout, bon, déjà on a des fleuves qui circulent à cheval sur plusieurs pays, et de toute façon le fret peut s'accélérer. C'est des enjeux sur lesquels vous essayez de travailler aussi, de pousser.
Bien,
aussi.
Bien sûr. Alors je vais plutôt parler de mon expérience quand j'étais chez Fret SNCF. Le fret, c'est européen de base. Enfin, c'est là on parle au niveau de la France, mais particulièrement le fret est encore plus européen que le voyageur. L'essentiel de nos flux, ce sont des flux. Je crois que c'est plus de 50% de mémoire. Des trafics qui sont faits par les entreprises ferroviaires en France sont des flux européens. Donc la grande majorité de nos flux, ça va être du Anvers-Marseille, ça va être de l'Allemagne-France. Donc le fret ne peut se concevoir que via une vision européenne. On a des sujets d'interopérabilité sur lesquels on travaille, Vincent en parlait. Et puis on est déjà beaucoup en partenariat avec les entreprises ferroviaires ou les gestionnaires d'infrastructures européens. Je pense notamment à l'initiative Shift to Rail et à tout ce qui est Green Deal européen qui est très important pour le fret.
Alors, merci beaucoup d'abord. Et ensuite, merci à vous qui nous envoyez vos questions. Vous pouvez continuer, on a encore un peu de temps. Il y a un certain nombre de questions qui concernent le management, l'organisation interne, comment est-ce qu'on fait un partenariat en interne. Mais d'abord, je voudrais revenir sur la première question qui nous est parvenue de la part de Avronsart Axon Consulting, qui avance à visage découvert.
Stéphane, de t'avoir reconnu.
Je me tourne vers vous, Antoine, parce que c'est souvent le partenariat bute sur la question de la propriété intellectuelle et le partage des innovations. Évidemment, là, comment ça se passe entre SpaceX et la NASA ?
Vous voulez dire à qui appartient quoi ? Dans les faits, la NASA aujourd'hui, c'est pas un vaisseau qu'elle a acheté, c'est un service. Et l'intégralité de ce service, c'est-à-dire à partir du moment où on peut même entraîner on entraîne les astronautes dans les infrastructures de SpaceX et jusqu'aux opérations de récupération en pleine mer. Aujourd'hui, c'est un bateau de SpaceX qui va récupérer les équipages. Ça n'est plus, on ne mobilise plus un porte-avions, 5 ou 6 croiseurs en pleine mer pour aller récupérer un petit habitacle qui fait quelques mètres de diamètre. Non, là, c'est vraiment quelque chose qui est totalement, qui est fait, je ne vais pas dire en interne, hein, mais c'est SpaceX qui est propriétaire de son vaisseau. J'en reviens à ce que je vous disais tout à l'heure. Aujourd'hui, SpaceX peut parfaitement proposer les services de son vaisseau à qui il le souhaite. On peut imaginer qu'un pays en Asie, par exemple, peut-être pas en Asie, mais au Moyen-Orient, décide de louer les services de SpaceX pour faire voler ses astronautes. Ça, c'est tout à fait, aujourd'hui, c'est tout à fait possible. Ça n'est pas la NASA qui, maintenant, est propriétaire.
Vincent, puisque vous connaissez donc l'auteur de la question, vous en avez dit un mot, évidemment, en rappelant bien ce qui était des prérogatives d'Alstom et de SNCF, mais comme à la fin, vous évoquiez la possibilité d'avancer avec de l'open data, là, par définition, c'est l'abandon même de la propriété intellectuelle et de la mise en avant des communs, ce qui est plutôt, de mon point de vue, réjouissant. Donc ça veut dire que la propriété intellectuelle, à un moment, quand on pense que la cause est plus grande, on est capable de l'abandonner.
Alors, il y a deux sujets. Le premier, je vais rebondir sur cette question qui était intéressante sur notre organisation, juste avant d'évoquer le mot de la propriété intellectuelle, mais les deux en découlent. On l'a vu à cette ère de la digitalisation, dans ce temps de confinement, on a réussi à travailler, bien travailler, même à distance. Mais on voit aussi l'intérêt de ce qu'on est en train de mettre en place, hein, je pense avec Alstom, sur ce qu'on appelle les fameux plateaux communs, où là, physiquement, on a vu aussi tout l'intérêt de réunir les gens ensemble sur un lieu commun qui n'était ni chez Alstom, ni chez SNCF, qui sont dans des locaux dédiés. Et ce travail collectif avec une appartenance forte au projet était extrêmement importante. Alors, ça me déroule tout de suite vers cette question de la propriété intellectuelle. Ne soyons pas naïfs, on est dans des enjeux industriels. Donc, ces sujets de propriété intellectuelle, on va essayer de les gérer dès le début. Juste pour resituer un peu le périmètre, SNCF est à peu près propriétaire d'environ 735 brevets depuis le début. C'est à la fois peu et beaucoup. Mais aujourd'hui, ces enjeux-là, au regard des extensions de services, on a parlé du service hein, tout à l'heure, hein, et on switch du technique vers le service. Alors, on ne va pas faire aujourd'hui un sujet sur le MaaS, hein, Mobility as a Service, mais on voit bien que la mobilité est transférée vers le service. Donc, cette question du service de la propriété intellectuelle, on essaye de le régir par des accords de consortium qui sont souvent, ce n'est pas le moment le plus marrant hein, dans les partenariats, mais c'est ce qui pose, c'est les fondations. Alors, je ne vais pas dire que c'est le contrat de mariage, mais un peu, et qui permet de régir l'ensemble des éléments. Et là, en effet, on est en train de définir dans ce contrat ce qui est du bien commun. C'est ce que vous évoquiez tout à l'heure. C'est de la data, mais c'est aussi quels sont les services communs ou quels sont les services qui sont la propriété de l'un ou l'autre, comme je l'évoquais tout à l'heure, sur les parts de marché.
Là, vous souhaitiez rebondir, parce que j'ai vu que vous hésitiez un peu sur le contrat de mariage. Non, vous n'êtes pas marié à VNF, du coup.
Non, c'est...
Union libre, d'accord.
Je voudrais rajouter quelque chose, c'est que concernant SpaceX, mais aussi Boeing, hein, sont vraiment les deux prestataires importants pour la NASA. L'un et l'autre allouent un service à la NASA, mais on est encore quand même très loin du transport de masse, qu'on peut avoir en avion ou en train. Soyons bien clairs sur ce point.
Alors, il y a quelqu'un qui vous a entendu et qui vous repose la même question sur le contrat. Un bon partenariat est-il synonyme de relation de confiance ? J'ai cru comprendre que oui. Oui. Du coup, je passe à la seconde partie la question, qui est, si oui, quelle est la recette pour développer cette relation ? Alors, est-ce que c'est, on dit souvent, il n'y a pas de confiance sans contrôle. Enfin, c'est un vieux mantra des libéraux. Est-ce que ça veut dire qu'il faut, tout poser par écrit en amont ? Il faut
la confiance n'exclut pas le contrôle, oui.
Ouais, c'est le truc des libéraux. Hein.
Ah non, mais je préfère reciter la...
Ouais, la confiance n'exclut pas le contrôle, d'accord. Et alors ?
Le faire ensemble. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je vais donner quelques exemples. Le faire ensemble, c'est-à-dire, je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas forcément aller vers les réflexes naturels de reporter la faute sur l'autre, mais c'est aussi de prendre aussi à son compte. Je pense qu'il y a une forme aussi d'empathie. Alors, l'empathie, c'est se mettre à la place de l'autre. Et aujourd'hui, quand on essaye de sortir dans cette relation client-fournisseur, on n'est pas du tout empathique, bien au contraire. On est donneur d'ordre et à l'autre de se débrouiller. Si on reste sur simplement débrouille-toi avec tes problèmes et le ciel t'aidera, cette injonction n'est pas suffisante. Donc, c'est de la confiance. La confiance, traduction, c'est des comités de pilotage. C'est ça qu'on exprime. Hein. Ça n'exclut pas le contrôle. Hein. Ne soyons pas naïfs. C'est exactement ce qu'on dit. Mais il y a un moment, je vais te donner l'exemple. Quand on a fait des comités de pilotage, je vais donner la longue histoire sur le train hydrogène. Ça a quand même été long. On est sur des financements lourds. Il a fallu aller défendre le projet devant l'État, devant les collectivités. Hélène connaît bien ce que veut une région n'est pas forcément ce que veut une autre. Donc, trouver ce qu'est le bien commun, la définition commune, c'est pas facile. Et donc, ça, on l'a porté d'une seule voix. C'est pas Alstom qui allait vendre son train, c'est pas SNCF qui allait vendre son service. C'est on allait vendre quelque chose de nouveau, un service de mobilité décarbonée au travers d'un produit. Donc, je le redis, on n'est pas sans exclure des notions de contrôle. Et on a des copiles et il y a des moments où on a des choses pas forcément agréables à se dire, mais on se les dit. Et à la fois, on essaie de résoudre les problèmes ensemble. Et l'un des problèmes qu'on a aussi à gérer dans tous les grands projets, et que je pense le pont de Normandie, la 380, c'est le planning, c'est dès les coûts. C'est toujours ce qui revient. Comment est-ce qu'on arrive à driver au mieux ces deux indicateurs qui sont souvent les bêtes à chagrin dans les grands projets.
Mais alors, dès les coûts, on sait très bien que du coup, qu'est-ce qui se passe quand c'est pas respecté? Est-ce qu'on est établi en amont sur qui remonte la faute?
Alors, en amont, pas forcément. D'abord, ce qu'on a fait, c'est qu'on se dit, lorsqu'on gère un grand projet avec des aléas, qui est un projet d'innovation, on a une petite part dans le budget qui s'appelle la provision pour aléas et risques ou incertitudes. Ça dépend, PAR ou PAI, peu importe. Enfin bon, bref, ça, c'est assez normé dans la gestion de projet. On la remonte pour des projets plus à risque comme ceux-ci. Donc ça, c'est déjà, on a déjà un matelas pour amortir un peu les mauvais coups, les incertitudes. Et puis après, il y a quand même des obligations des deux parties qu'on va essayer de faire respecter. C'est en ça que je reviens au moment, à un aspect contractuel. On a quand même des délais. Et il y a des pénalités si l'un ou l'autre sont en retard. Nous, dans notre capacité à pas forcément donner les bonnes données en temps et en heure, et à l'industriel aussi à respecter ses prérogatives.
Et qu'est-ce qui se passe si Musk, ayant surpromis... Voilà.
Alors Musk, pour l'instant, il a rien surpromis parce qu'il tient ses promesses avec la desserte de l'ISS. C'est plutôt Boeing qui aujourd'hui est un peu dans la panade puisque sa capsule Starliner devait être disponible pour un second vol automatique cet été. Et malheureusement, c'est pas le cas. Ce deuxième vol automatique, elle a accepté de le financer sur ses propres fonds à hauteur de quelques centaines de millions de dollars supplémentaires. Mais là, c'est vraiment Boeing qui est en difficulté. En revanche, Elon Musk, lui, pour l'instant, il tient ses promesses. Son vaisseau fonctionne pour le moment parfaitement. Touchons du bois. Et je vois pas ce qui pourrait... Là, pour moi, virtuellement, là, il est presque seul au monde.
Je vais peut-être compléter pour donner un exemple très concret de ce qu'on a eu comme difficulté à gérer, parce qu'on est aussi pour parler un peu des difficultés. On voit bien, juste un petit exemple sur les trains qu'on est en train de développer. Alstom a ses propres fournisseurs, et en particulier, j'ai évoqué la question des batteries. Bon, le sourcing des batteries aujourd'hui se fait au travers quelques industriels qui, peut-être un peu naïvement, venant d'autres mondes, pensaient que de ferroviariser un composant comme une batterie était assez simple, un peu comme mettre une batterie dans un iPhone. Malgré tout, on a beaucoup de normes dans le ferroviaire. Hein, et donc, de ferroviariser les interfaces, le produit, n'était pas si simple. Et typiquement, le retard pris sur ce composant-là a entraîné un retard global sur le projet. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris le taureau par les cornes en travaillant conjointement avec Alstom pour essayer de mettre et d'aller avec les experts, parce qu'on a quand même, je salue aussi notre réseau d'experts, interne SNCF, la force de frappe de notre ingénierie, de l'allier aussi avec les compétences industrielles pour aller directement chez le fournisseur de rang 2 et pas faire quelque chose en cascade et en disant entre les compétences de l'un et les compétences de l'autre, ça va aider le fournisseur à redresser un peu le cap plutôt que de laisser continuer à plonger. Voilà, c'est juste un petit exemple de « on fait ensemble ».
Je m'adresse juste à, je pense qu'on prononce Bener Sifanur ou Sifanur, qui nous demande s'il y a des collaborations prévues avec l'étranger, juste s'il peut préciser est-ce qu'il s'agit du fret ou est-ce que, parce qu'on a déjà pas mal évoqué ces questions avec la Deutsche Bahn, donc la question étant un tout petit peu imprécise. Merci par avance. Il y a une question pour vous qui vient d'arriver sur le fret. Quid pour le fret de l'acheminement dans la logique du dernier kilomètre? C'est un petit peu compliqué, c'est évidemment le graal de la logistique moderne. Est-ce qu'il y a une solution via les rails ou en fluvial qui pourrait être prévue? Ça paraît compliqué.
Là, c'est des questions techniques. Je ne sais pas s'il y a peut-être des initiatives qui sont en cours. Peut-être Vincent saurait compléter. Voilà, puisque c'est évidemment, comme vous l'indiquez, c'est le nerf de la guerre, hein, le dernier kilomètre. Le ferroviaire, c'est pas. C'est pas fait pour. C'est aussi pour ça qu'on s'allie avec BNF, qui est un peu plus agile quand même, hein, pour rentrer dans les villes notamment. Ça n'empêche pas les derniers kilomètres d'être fait par la route, même si au global, on y gagne. Hein.
Oui, alors comme l'a dit Hélène, hein, la question des derniers kilomètres, on l'aborde aussi sous l'angle technique. On voit émerger plusieurs concepts intéressants aussi qui sont... Alors, dans cette question de l'irrigation, on en a un peu parlé aujourd'hui, mais on a un enjeu fort sur l'irrigation aussi de ce qu'on appelle les LDFT, hein, donc tous les territoires.
Les petites lignes, en
bon français, tu as raison. Et aujourd'hui, on voit des initiatives où on est en train de développer des nouveaux produits, hein, ce qu'on appelle les les trains légers, parce que c'est un impact direct. Hein, plus le train est léger, évidemment, moins on abîme l'infrastructure. Et donc aussi, on a quelque chose de plus efficient. Et toute cette mobilité sur des territoires plus ruraux, on la veut mixte un peu entre du voyageur et potentiellement du fret. Donc quelque chose du plus léger qui peut être dans la continuité des acheminements. Alors là, je ne parle pas évidemment d'un train lourd de charbon. Hein, on n'est pas dans ce modèle-là. Mais Hélène évoquait aussi la problématique du wagon isolé. Comment est-ce qu'on arrive à faire rentrer ça dans certains territoires? Donc on voit qu'on a aujourd'hui des concepts qui émergent sur du transport mixte voyageurs et marchandises pour certains cas d'usage.
Tout à fait. Comme tu le disais, on voit sur cet exemple en particulier que les différentes autorités organisatrices, chacun peut avoir des idées différentes. Hein. Et nous, en Normandie, on essaye plus de développer différents types de nouveaux trains de main. Donc, on a effectivement des idées sur du train léger d'un côté, de train hydrogène de l'autre, puisque ce n'est pas adapté au même, tu le disais, hein, au même...
Enfin, tu dis aussi à Normandie que le train hydrogène est prêt. Hein.
Je le dirai, mais ça n'empêche pas de réfléchir sur du train léger, sur des petites lignes, effectivement, puisque ça a de vrais atouts sur ces lignes-là, en faisant de la mixité avec du fret, pas trop lourd. Donc, on va essayer d'expérimenter des choses.
Restez sur le train hydrogène, parce qu'il y a une question qui vient d'arriver. En disant,
je n'ai pas encore beaucoup interrogé ça arrive, sur ce ça sujet-là.
En disant, Siemens fait également de l'hydrogène. Quelle est votre position vis-à-vis de ce fournisseur potentiel? Est-ce qu'il y aurait un risque de conflit d'intérêts qui vous lie par rapport à ce qui vous lie avec Alstom?
Nicht. Non, alors je m'explique. On voit que d'autres constructeurs... On est parti à travailler avec Alstom parce que Alstom était en avance sur le sujet de l'hydrogène avec son produit qui était le Helint en Allemagne. On voit aujourd'hui d'autres constructeurs. Alors, on peut citer Siemens, hein, Siemens qui est aussi en train de développer une gamme hydrogène, mais aussi batterie. Il y a aussi un autre constructeur qui arrive, qui est Stadler. Stadler est en train aussi de produire un train un peu similaire au Helint et il en a vendu quelques exemplaires, dont quelques exemplaires aux États-Unis. Donc, on voit bien qu'au bout du bout, comment ça se passe, c'est que tout le boulot de l'innovation, c'est d'entraîner un maximum d'acteurs sur le développement des technologies. Et plus il y a d'acteurs, plus ça fait baisser les coûts. Donc moi, je suis très content. Plus il y aura d'industriels, mieux c'est pour nous parce qu'à un moment, on va passer des marchés. Et si on n'a qu'une seule entreprise qui répond en face, c'est difficile de négocier.
Du coup, si je reprends ce que vous me disiez avant sur Elon Musk et seul au monde, si on veut que ça baisse un peu, il faudrait qu'il y ait...
Il faut avoir des démarches similaires. Il faut se lancer de nouveaux défis. Il faut aussi créer des volumes parce que Elon Musk, il a créé une espèce de nouveau modèle économique avec Starlink, notamment, qui est la constellation Internet à très haut débit. On était sur 26 lancements. Je crois qu'il y a eu 12 ou 13 lancements Starlink dès l'an dernier. Donc, Elon Musk, il est à la fois son propre opérateur et son propre client. Et ça, personne n'aurait jamais imaginé un tel modèle il y a encore 10 ans. Il a innové de manière très importante en mettant la réutilisation. C'est vrai que quand on y pense, c'est complètement aberrant de se dire qu'on va utiliser une fusée qu'une fois. Lorsque vous faites un voyage en train, vous laissez pas... Le principe du train, c'est d'être rempli. À terme, ce qu'Elon Musk voudrait faire, c'est avoir une flotte de lanceurs dans lequel on puisse piocher... pour faire tel ou tel lancement. Le problème d'un lancement de fusée, c'est aussi les contraintes aérodynamiques, hein, qui sont très fortes. Un moteur de fusée, c'est plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de tonnes de poussée. C'est beaucoup de contraintes. Donc l'idée, il faut remettre en œuvre votre lanceur le plus rapidement possible. On arrive maintenant chez SpaceX, on arrive à réduire ce temps de remise en œuvre. On est maintenant le record maintenant, c'est 27 jours entre deux tirs pour un seul et même lancement, ce qui est déjà beaucoup. Au départ, c'était 100-200 jours, et petit à petit, on va réduire ce temps de remise en œuvre. Alors, on n'en est pas encore à quelques heures entre... C'est pas comme dans un avion. Hein. Vous refaites dans un avion, l'avion se pose, vous refaites le plein et il peut repartir en quelques heures. Là, on en est encore loin. Mais peut-être que d'ici 10-15 ans, bah, il ne serait pas exceptionnel de penser qu'on ait une fusée qui puisse accomplir deux fois un vol dans la même journée. Et c'est ce qu'il veut faire d'ailleurs avec le Starship.
C'est toujours terrible avec la prospective. C'est qu'évidemment, il faudrait être en 2036 pour vérifier que si ce qu'on s'est dit...
On est dans la prospective, certes, mais c'est justement ce nouveau mode de, pas de locomotion, mais de transport que SpaceX, que Elon Musk espère un jour démocratiser. Vous dire si ce sera opérationnel dans les 10 ans. Enfin, déjà, la version lunaire du Starship, elle doit être prête pour le programme Artemis. Mais un transport de masse avec des milliers de personnes tous les jours, là, pour l'instant, on n'y est pas encore. Mais d'ici, allez, 40-50 ans...
Et le ratio empreinte carbone de ce transport versus avantage, puisque pour l'instant, sur Mars, il ne se passe pas grand-chose. Je vois bien une ou deux personnes que j'enverrais bien sur Mars.
Alors, je voudrais préciser quand même, on utilise entre autres comme ergol l'hydrogène liquide. L'hydrogène, la combustion, c'est de l'eau. Donc c'est beaucoup plus propre. On peut utiliser du kérosène liquide et on peut utiliser du méthane. Ariane Group là, travaille sur un moteur qui s'appelle le moteur Prometheus qui utilisera un ensemble LOX-méthane. Mais je suis d'accord avec vous sur un point, finalement, la place des lancements de fusées, c'est peut-être dans l'espace aussi, mais dans l'immédiat, pour avoir accès à l'espace, pour avoir accès aux satellites, aujourd'hui, on ne peut pas se passer de satellites, hein, ça c'est très clair. Le seul moyen de gagner l'espace dans l'immédiat, ça reste la fusée.
Et peut-être avant de vous demander une petite conclusion à chacun sur ce que vous avez retenu de nos échanges, il y a une petite question qui me paraît s'adresser à vous deux, puisque vous êtes quand même dans un groupe avec diverses entités. Vous parlez de partenariat entre différentes entreprises dans le but de développer un business commun. Mais y a-t-il également une notion de partenariat interne au sein d'une même entreprise ou d'un même groupe pour mettre en relation des entités n'ayant rien en commun a priori, mais qui peuvent s'apporter beaucoup ?
Bon, alors on va répondre à deux voix.
La réponse est oui, heureusement.
Voilà. Mais oui, bien sûr. Alors, on a aujourd'hui, et je pense que c'est important, dans ces travaux, dans cette définition de cette roadmap d'innovation, on a redit tout le sens qui était de travailler aussi sur l'optimisation du système. Donc, c'est évidemment des mobiles sur une infrastructure, mais c'est aussi une infrastructure qui répond à une bonne exploitation de ces mobiles-là. Je vais juste donner un exemple qui va illustrer mon propos. On a travaillé aujourd'hui sur un concept que nous avons porté, qui est le sujet de l'électrification frugale. On a un vrai sujet sur les coûts d'électrification. On dit ça coûte cher, etc. Donc, on a repensé les modèles économiques d'électrification en se disant ce n'est pas tout le linéaire d'électrification qui coûte cher, c'est évidemment les sorties de gare, le passage des ouvrages d'art. On a des points un peu singuliers qui coûtent cher. On se dit, si on n'électrifie pas tout, mais si on électrifie justement que certaines portions et que le reste, ce qui coûte très cher, on va utiliser l'autonomie d'un matériel nouveau qui est justement un train à batterie. Est-ce qu'on ne peut pas chercher l'optimum de ce système-là, c'est-à-dire trouver une électrification frugale, partielle, couplée avec des trains à batterie qui va donner le meilleur des deux mondes et une optimisation. En faisant ça, on le fait, là on est passé en opérationnel sur Marseille-Aix, on a divisé par 3 les coûts. Donc, on travaille bien ensemble pour travailler des optimums qui ont aussi, évidemment, toute une pertinence économique. Voilà, donc ce concept d'électrification frugale avec du train batterie et illustre ce qu'on peut tirer de mieux du système.
Alors, je n'aurais pas les mêmes exemples aussi intéressants et concrets que Vincent, mais déjà, je voulais rappeler que, tout simplement, chez SNCF Réseau, un de nos enjeux, c'est d'être le plus orienté client possible. Et nos premiers clients, ce sont SNCF Voyageurs, SNCF Fret, etc. Donc, avant d'être, c'est bien sûr des acteurs du groupe, mais c'est aussi nos clients. Donc, au quotidien, c'est vraiment là-dessus qu'on travaille. C'est comment est-ce que on satisfait au mieux nos clients. Ensuite, quand on est dans des démarches un peu plus prospectives, celles dont on parle, notamment en Normandie, on le disait, hein, on travaille avec notre autorité organisatrice sur le train de demain, le TER de demain, pas sur des lignes fréquentées ou sur des plus petites lignes. Mais ça ne peut pas se faire sans SNCF Voyageurs, puisque c'est en fait un binôme, une problématique qui est à la fois sur l'infrastructure et sur le matériel roulant. Donc on ne peut pas le travailler sans nos collègues de voyageurs et on ne peut pas le travailler sans les constructeurs, évidemment.
Alors, évidemment, on rendra notre plateau à l'heure, mais je ne peux pas vous libérer, Antoine, sans vous poser deux questions un peu taquines qui vous arrivent. D'abord,
je vais quand même dire un point sur le partenariat.
Allez-y.
Parce que ça, c'est très important aussi. Le partenariat, c'est une notion vitale dans le ferroviaire, dans l'aérien, dans le spatial. Et aujourd'hui, le CNES et l'industrie travaillent. Je ne veux pas me faire l'avocat du CNES, ce n'est pas le but, mais il y a une structure commune aujourd'hui qui existe, qui s'appelle ArianeWorks, et qui doit permettre d'arriver à un lanceur du futur, normalement d'ici une dizaine d'années. Il me paraissait quand même essentiel de le rappeler pour la partie européenne du spatial. Et je vais répondre à vos questions.
Et après, justement, pour rebondir et pour qu'on se retienne qu'il y a beaucoup de choses sympathiques avec les partenariats avec le spatial, puisque vous évoquez le CNES, c'est intéressant de voir qu'une femme comme Laurence Monnoyer-Smith, qui travaillait avant au ministère de l'Environnement, a rejoint le CNES pour faire des partenariats avec des secteurs aussi divers que la santé, pour voir ce que le réchauffement climatique pourra produire en termes d'évolution au hasard des pandémies, et donc du coup de pouvoir faire des anticipations de traitement. Alors, deux questions sur votre secteur d'activité. Je suis désolé parce qu'on avait un petit problème avec la tablette, donc je regarde mon téléphone, c'est pas du tout que... Voilà. Philippe vous demande, est-ce que c'est vraiment de l'innovation que d'avoir lancé la flotte Starlink ? Elon Musk a-t-il intégré la notion système ? Alors là, on me dit pollution visuelle pour les observatoires astronomiques, déchets dans l'espace.
Alors, c'est vrai que plus on lance dans l'espace, plus on pollue. Et c'est un problème qui est vraiment au cœur des préoccupations. Pour tenter de limiter cette pollution, quand un satellite est lancé, une fois que le satellite va rejoindre son orbite, il y a une procédure qui est de désorbiter l'étage supérieur qui sert à donner la dernière impulsion afin qu'il soit précipité dans le Pacifique Sud, la région la moins fréquentée, heureusement. Il est certain qu'avec Starlink, là, ce n'est pas sans poser des problèmes. C'est certain, vous avez des astronomes qui voient apparaître, des gens qui voient apparaître parfois dans le ciel, non pas des ovnis, mais des satellites Starlink qui se déplacent en ligne droite, des petits points lumineux. Pour tenter de limiter ça, SpaceX a indiqué avoir peint d'une certaine manière des satellites de manière à ce qu'ils ne soient pas visibles. Mais le problème aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de cadre, juridique. Hein. On est foncièrement l'espace extra-atmosphérique, c'est une frontière qui est très floue. Hein. Vous êtes dans l'espace, ok, vous passez au-dessus de la France, vous passez au-dessus, et puis l'instant d'après, vous êtes au-dessus de l'Allemagne, etc., etc. La frontière, elle est invisible. Donc, foncièrement, on fait un peu... Je ne vais pas dire qu'on fait ce qu'on veut, parce que ce n'est pas vrai. Il y a des règles à respecter. On tente aujourd'hui de limiter ça. Pour le moment, il y aura peut-être un marché à faire, à ouvrir, à savoir dépolluer l'espace, peut-être dans quelques années.
Ça embauchera des gens. Alors,
c'est le but, hein.
Alors, on se pose quand même souvent maintenant, parce que la course contre le dérèglement climatique, c'est une course de vitesse. Donc, on se pose la question en amont, plutôt que d'essayer de compenser ou de faire moins mal, est-ce que parfois, il ne faut pas interdire ? Et c'est ce que vous demande un anonyme qui dit le spatial pour la recherche, OK, mais quid de l'impact écologique du tourisme spatial ? Quelle comparaison avec le ferroviaire ou l'avion par voyageur au kilomètre carré ? Est-ce que c'est réellement une innovation ? Est-ce qu'il ne faudrait pas tout simplement s'en passer ?
Alors... J'ai envie de vous dire aussi, est-ce que vous avez envie d'aller sur votre plateforme de série télé ? Est-ce que vous voulez aller passer des vacances ailleurs ? Moi, personnellement, je suis pas pour l'interdiction. Je suis pour quelque chose peut-être de plus de cadré, forcément. Mais l'interdiction, pourquoi ? Pourquoi interdire ? Cadré, oui. Ça, je pense que c'est absolument essentiel. Mais ça prend du temps.
Non, j'avais envie de rebondir sur ce que dit Antoine parce que je trouve que c'est intéressant, ça m'évoque aussi un peu tout ce qu'on voit. Je prends l'exemple de la Formule 1, et Antoine l'a bien dit aussi, ces vols sont aussi des drivers pour conduire de la techno. Et je pense que la Formule 1, on voit tout ce qui en découle aussi dans la voiture de Monsieur Tout-le-Monde. Et
sur ce que dit Vincent, la Formule 1, c'est la R&D de l'automobile. Hein. On a eu des dérivés technologiques on a des dérivés technologiques grâce au spatial. Je pense qu'il est toujours très important d'innover. Jeff Bezos, bon, s'il est allé dans l'espace au mois de juillet, son ambition, c'est aussi de transposer les industries lourdes dans l'espace. Alors, est-ce que quelque part, ça ne vaut peut-être pas le coup de prendre des risques, de continuer à prendre des risques pour essayer de préserver notre planète? Moi, je pense que le spatial, il peut nous apporter cette... ça peut être un début de réponse.
Effectivement, je pense qu'on oublie souvent tout ce qu'ont apporté les missions Apollo.
Bien sûr.
Au quotidien, quoi, dans notre quotidien.
Sont des milliers de brevets. Hein. La couche culotte de nos enfants, je parlais des commandes de vol électrique sur les avions. Et puis, il y a aussi cette notion de rêve. Hein,
Il n'y aurait pas d'iPhone aujourd'hui quasiment sans Apollo.
Et il n'y aurait pas d'iPhone sans Apollo. Il n'y aurait pas d'ordinateur portable sans Apollo.
Ça soit encadré, mais il ne faut pas oublier.
Il faut cadrer ça. Il faut bien évidemment préserver notre planète. C'est le plus important. Puis peut-être qu'un jour on sera forcé, moi un directeur d'agence spatiale me confiait il y a quelques années, un jour on sera peut-être obligé d'aller chercher nos ressources ailleurs, et ce sera peut-être la notion la plus importante, la partie la plus importante pour préserver notre planète.
Débat très très épineux, encadrement ou interdiction, en tout cas bigrement d'actualité. Je vais, voyant que là les questions sont un petit peu taries, je vais demander à chacun de faire un petit tour de table. On peut reprendre le même ordre qu'au début pour vous demander la conclusion d'un partenariat réussi. Dans les questions et même dans vos échanges spontanément, ce qui est le plus souvent revenu, c'est l'analogie avec un couple non exclusif. Comment est-ce que vous, en quelques mots, vous résumeriez les avantages et les maîtres mots d'un partenariat réussi en ce qui concerne la mobilité? Et après, vous pouvez oublier l'analogie avec le couple, évidemment.
Une relation de confiance qui permet d'aboutir à un objectif commun, tout simplement.
Vincent ?
Oui, je vais rebondir parce que je trouve que les partenariats, je vais citer aussi l'excellence des deux mondes. Antoine nous a fait rêver. Et un bon exemple aussi, c'est des partenariats qui sont pas forcément très naturels. Je vais citer aussi ce qu'on fait entre le ferroviaire et le spatial. Ça sera un peu ma conclusion. On se doute pas forcément que demain, on veut travailler une localisation précise des trains par l'hybridation de systèmes de localisation qui inclut du GNSS, donc du spatial. Donc, on voit bien que un partenariat réussi, c'est pas forcément des choses qui sont très naturelles. Et puis, un mot, c'est qu'il faut quand même qu'on ait une ambition commune. Je pense que ça, c'est fondamental. Si on n'a pas de projet, on va faire l'analogie au couple une fois de
plus.
Une
perspective.
Mais en tout cas, une ambition commune est fondamentale.
Je ne vais pas dire beaucoup mieux que, par exemple, ce que disait Antoine, qui me semble bien résumer la chose. On voit quand même que, dans ce qu'on a évoqué, on est sur des partenariats de nature assez différentes. Hein. Le SpaceX, c'est un partenariat, mais quand même à but assez lucratif.
Oui, voilà. Enfin, entre guillemets.
Oui. Mais bon, c'est pas complètement de la philanthropie. Quand même.
Oui, voilà, c'est ça.
Oui, bien sûr, c'est pas de la philanthropie. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que SpaceX, quelque part, elle a un peu escamoté l'objectif de la NASA, qui était quand même d'envoyer des hommes sur Mars. Ça, ça sera pas fait dans les 20 ans qui viennent. Mais bon, SpaceX aura peut-être besoin un jour d'avoir des trains sur Mars. Moi, je désespère pas qu'elle fasse appel. Mais je me fais pas l'avocat de SpaceX. Hein. Soyons bien clairs, surtout pas. Mais il est très possible qu'un jour on ait besoin d'avoir des trains sur la Lune, donc je ne désespère pas de voir la SNCF peut-être dans 40 ou 50 ans à la surface de la Lune, qui sait, pour des trains.
SMCF, la Société Martienne des Chemins.
C'est ça, là je ne sais pas à quel horizon de temps on est, mais en tout cas, plus
cinquantaine d'années.
On sera pas là. Plus pragmatiquement, nous, le partenariat qu'on a mis en place avec nos équipes, avec mes équipes, et qui a été répliqué dans d'autres régions de France. Finalement, il n'a pas vraiment de but lucratif aujourd'hui. C'est vraiment parce qu'on a un objectif commun, tu le disais, parce qu'on a besoin de développer ensemble la part du gâteau. Et c'est ça qui fonctionne, en fait, dans ce partenariat aujourd'hui.
Merci beaucoup à tous les trois. Merci à toutes et tous qui nous avaient suivis. On a beaucoup appris sur effectivement ce qu'on pouvait gagner culturellement et l'enrichissement, non pas financier, mais l'enrichissement technique, technologique et en termes de savoir-faire. Et souvent quand même, pour une cause écologique, à gagner avec des partenariats. Il y aura bientôt un replay de disponible sur la plateforme. Et puis on se retrouve à une date à définir, mais en tout cas en fin d'année, pour parler des smart réseaux. Merci encore à nos intervenants et puis à très bientôt.
Bonsoir.
Merci.
Merci d'avoir écouté ce podcast replay. Faites-nous part de vos commentaires, suivez notre actualité sur les réseaux sociaux LinkedIn et Twitter et retrouvez l'ensemble de notre offre sur notre site monudi.com. À très bientôt à l'Université de l'Ingénierie.